Audiolib présente Le Lagon Noir d'Arnaldur Indridason, lu par Jean-Marc Delos. Ne sommes-nous pas tout bêtement à leurs yeux un gigantesque quartier de baraquement militaire, un immense Camp Nox? Erlendur Sveinsson, commissaire à la criminelle. Chapitre 1. Un vent violent soufflait sur la lande de Midnesheidi. Venu du nord et des hautes terres désertes, il franchissait les eaux agitées du golfe de Faxafloy, puis se précipitait, glacial et mordant, sur les ondulations du paysage, saupoudrant d'une fine couche de neige les plantes rases, transies et prostrées, qui dépassaient à peine des roches et des blocs de pierre. La végétation à la merci de la mer et du vent du nord livrait une lutte incessante. Seules les plantes les plus endurcies parvenaient à survivre ici. La clôture, dépassant de l'étendue désolée, délimitait le périmètre de la base militaire américaine et sifflait sous l'effet des bourrasques qui s'abattaient sur les murs gigantesques du hangar à avions au sommet de la lande. Le vent redoublait d'intensité aux abords du bâtiment, comme exaspéré par cet obstacle, puis continuait sa route à travers la nuit. Ses hurlements résonnaient dans l'immense construction, l'une des plus grandes d'Islande. Cette dernière abritait les avions radars et d'autres avions militaires, des F-16 et des Hercules, ces gigantesques cargos. On y assurait la maintenance de la flotte aérienne des troupes affectées à l'aéroport de Keflavik. Des treuils, fixés à des axes qui couraient le long du plafond, servaient à déplacer les pièces détachées. Structure d'acier d'une superficie de 17 000 m², le hangar tournait le dos au nord et ses deux portes, orientées à l'est et à l'ouest, avaient l'envergure des plus gros avions du monde. La hauteur de plafond était vertigineuse, équivalente à celle d'un bâtiment de 8 étages. C'était la clé de voûte de l'activité de la 57e division aéroportée de l'armée américaine, basée sur la lande de Midnesheidi. En ce moment, le hangar fonctionnait au ralenti. On y installait un nouveau système anti-incendie. À l'extrémité nord, aussi gigantesque que tout le reste, un échafaudage spécialement renforcé atteignait le plafond où on installait le long des poutres d'acier des tuyaux équipés de puissants sprinklers à quelques mètres d'intervalle. Placés sur des roues qui le rendaient mobile, c'était un assemblage de petites plateformes équipées en son centre d'un escalier qui montait jusqu'au plafond où travaillaient les plombiers et leurs apprentis. Tuyaux, écrous et combinaisons de travail s'entassaient au sommet, ainsi que des caisses à outils, des pinces de toutes tailles et de toutes sortes, propriété des artisans islandais venus travailler ici. La plupart des chantiers entrepris sur le périmètre de la base militaire étaient confiés à des locaux. Le silence régnait à l'exception des lamentations du vent. Tout à coup, on entendit comme un souffle au sommet de l'échafaudage. Un tuyau atterrit en bas et rebondit avec fracas. Puis, un second souffle, plus mat, se fit entendre et un corps s'abattit sur le sol. L'impact s'accompagna d'un étrange bruit sourd et étouffé, comme si un gros sac de toile était tombé du plafond. Enfin, le silence revint, et il n'y eut plus que les hurlements du vent. Chapitre 2. Ces plaques la démangeaient si fort par moments qu'elle aurait voulu se les arracher avec ses ongles et se gratter jusqu'au sang. Apparue à l'adolescence, elle ressemblait à de l'eczéma en plus épais. Elle ignorait pour quelle raison elle souffrait de cette infirmité. Son médecin lui avait parlé de division plus rapide des cellules cutanées et de divers processus à l'origine de ces plaques rouges en relief et des écailles blanches qui se desquamaient. La maladie,